Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des moments clés de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Dunkerque. Deuxième épisode de notre série « Les dates qui comptent », celles qui sont des points de bascule dans le récit national. Le 4 juin 1940, donc, au petit matin, les derniers navires chargés de soldats anglais et français quittent le port de Dunkerque alors que les Allemands sont aux portes de la ville. C'est la fin de l'opération Dynamo qui a permis le sauvetage par la mer de 400 000 hommes, britanniques majoritairement, mais aussi français. Cette bataille s'est inscrite dans la culture populaire avec le film de Christopher Nolan, sobrement intitulé Dunkerque, mais aussi avec celui d'Henri Verneuil, Week-end à Zutkot, adapté du roman éponyme de Robert Merle. Bien, mais l'un comme l'autre ne montre pas la résistance acharnée des unités françaises qui se sont battues comme des lions, le mot n'est pas trop fort, pour retarder les Panzer division allemande et permettre ainsi à la quasi-totalité du corps expéditionnaire britannique de regagner le Royaume-Uni, d'où la guerre pourra continuer. Oui, sans la combativité des troupes françaises, on peut le dire, il est vraisemblable que Londres, privée de ses forces, aurait dû s'avouer vaincue et la face du monde en eût été probablement changée. Notre invité aujourd'hui, Dominique Lormier, auteur aux éditions Talendier de la bataille de Dunkerque et aux éditions du Rocher des vérités cachées de la défaite de 40. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
« 27 mai 1940. Louise Flamin a beau avoir 20 ans et se sentir adulte, elle tremble de peur dans sa chemise de nuit blottie contre sa mère dans la cave du café que tiennent ses parents, là, sur la plage Jean Barthe, au cœur de Dunkerque. Au-dessus de leur tête, les bombes pleuvent, les explosions se succèdent, les murs tremblent, des incendies éclatent. Louise pense que la fin du monde doit ressembler à cela, elle est terrorisée. Depuis quelques jours, en effet, la Luftwaffe pilonne la ville. Mais en ce 27 mai, elle se déchaîne et largue des dizaines de milliers d'engins incendiaires. Pendant des heures, c'est l'enfer sur Terre. Alors qu'il fait encore nuit, Louise et ses parents profitent d'une accalmie pour quitter leur cave et trouver un refuge plus sûr. Elle raconte au micro de FR3, 60 ans plus tard.
Nous sommes partis comme ça, comme nous étions. Hein, pas habillés, je l'avoue, chemise de nuit, peignoir, tout flambé. Tout flambé, torpille, bien, il restait pas grand-chose de la place Jean-Bart, sauf Jean-Bart. Et nous arrivons sur la place de la République. Place de la République où il y a une statue. Et derrière cette statue, il y avait une tranchée. Je voulais arrêter dans cette tranchée où il y avait deux, trois personnes qui regardaient là-haut, voir si elles voyaient arriver, etc. Mon père me dit, ben non, on est si près du palais de justice où il y a un abri valable, on y va. Et à peine là-dedans, un bombardement terrible. Et nous avons su par la suite que la tranchée avait été torpillée et tous les occupants avaient été tués.
Voici maintenant le sergent Maya. Ce même jour, un peu plus loin, à Bredune, il trouve refuge dans un garage.
Maya s'assit dans l'angle du mur derrière l'auto. Il remonta ses genoux jusqu'à son menton, les entoura de ses deux mains. Tout d'un coup, un sifflement plus fort le tassa davantage sur lui-même. Lui coupa le souffle. Presque immédiatement, il y eut un éclatement déchirant, un bris de vitre tout proche. Le garage trembla, et Maya sentit sur la nuque un choc violent qui l'affala en avant.
Maya, c'est ce soldat que l'écrivain Robert Merle met en scène dans le roman « Week-end à Zutkot », paru en 1949. Il fait partie de ceux qui ont perdu leur unité dans la débâcle, les jours précédents, et qui sont venus se réfugier à Dunkerque ou dans les environs, attendant un hypothétique embarquement. Le 10 mai, la drôle de guerre a pris fin. C'est maintenant la vraie guerre. Les chars allemands ont envahi le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, et ils arrivent en France. Robert Merle a fait du sergent Maya un homme désabusé, qui doit écouter probablement avec un sourire moqueur les rodomontades du général Gamelin, commandant en chef de l'armée française, comme le rapporte ce bulletin d'information du 11 mai 40.
Une bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne y a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France calme, forte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés, courage, énergie, confiance.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc.
La ligne Siegfried, c'est l'équivalent allemand de la ligne Maginot, celle qui allait nous défendre, un indéfectible bouclier. Mais voilà, les Allemands l'ont contourné, cette ligne Maginot. Les Panzer-divisions ont franchi les Ardennes, alors que nos généraux étaient certains qu'ils ne pourraient pas passer par là. Guerre de position contre guerre de mouvement, les Français ont une guerre de retard. Alors les Allemands prennent Sedan et remontent à toute vitesse vers le nord, prenant peu à peu en tenaille les armées alliées anglaises, françaises, belges, les faisant refluer vers la mer, dans le nord de la France et vers la Belgique. Ainsi, au fil des jours, l'étau se resserre autour de Dunkerque. Mais dès le 17 mai, les bombes avaient commencé à tomber sévèrement sur le troisième port français, et le premier d'ailleurs pour l'importation de charbon et de minerais.
Cela paraît très loin aujourd'hui, et même pour les très jeunes d'un autre âge, et pourtant cela ne remonte qu'à 23 ans. C'était les 17 et 18 mai 1940, l'offensive allemande a 7 jours, et cette ville, écrasée sous les bombes, c'est Dunkerque.
Comme Louise Flamin et sa famille, les Dunkerquois sont nombreux à s'abriter dans les caves de leurs habitations ou dans les abris installés à la hâte. Parmi eux, l'abbé de Cointe, vicaire de 23 ans de l'église Saint-Martin dans le sud de la ville. Voici son témoignage, cité par Dominique Lormier dans Les vérités cachées de la défaite de 1940. Nous trouvâmes asile dans la cave où nous nous sentions plus en sécurité. Autour de nous, presque toute la population est là. D'abord parce que le quartier de la basse ville était le moins bombardé, et ensuite parce que ces familles modestes n'avaient pas les moyens de partir et n'avaient pas de point de chute à la campagne ou chez des amis. De même, beaucoup de gens du centre de la ville vinrent se réfugier près de nous, leur maison étant réduite en cendres dans les rues principales. Le 29 mai 40, le général britannique Johnson, à la tête de la 12e division d'infanterie motorisée, arrive à Dunkerque au petit matin. La veille, il était un peu plus au sud pour assurer la défense de l'île. Mais avec la capitulation de la Belgique, la partie était perdue. Johnson et les responsables d'autres divisions présentes sur place ont reçu l'ordre de rallier Dunkerque tant qu'il était encore temps. À Lille, les Français commandés par le général Molinet ont résisté, pied à pied, permettant aux troupes anglaises, en particulier, de refluer vers Dunkerque. Rappel des faits avec la journaliste Florence Mabie de Pont-Gilles, de France 3 Hauts-de-France.
Le 28 mai, en fin de matinée, les Français réussissent même un exploit. La capture du général Kuhn, porteur de plan d'attaque allemand sur la poche de l'île. Ce sera le seul général allemand fait prisonnier en mai-juin 40. Les Français se battent par petits groupes, maison par maison, dans des usines, sur des remblais de chemin de fer, sur les berges de la Deule, où la 40e division d'infanterie nord-africaine défendra un pont jusqu'à la dernière cartouche.
Se battant le jour, se déplaçant la nuit, la division de Janssen gagne Dunkerque. Ces hommes combattent depuis le 10 mai. Basés à Saint-Quentin, ils ont été envoyés en Belgique, près de Namur. Et pendant 3 jours, ils ont contenu les divisions blindées allemandes, puis ils se sont repliés et ils ont progressé vers la côte via Charleroi, Valenciennes, Lille, se frayant un chemin entre les troupes ennemies. Louis Janssen est ce qu'on appelle un bon général, qui jouit de l'estime de ses hommes. Cet homme de 56 ans, que les rares photos montrent portant des lunettes rondes, la moustache bien taillée, est apprécié pour sa compétence et son sens de l'humain. Son calme imperturbable également a des effets bénéfiques sur tout l'entourage. Grâce à son sang-froid en effet et à son esprit de décision, le général Johnson est parvenu à conserver groupé la majorité des unités de la division tout au long du repli vers Dunkerque. Ce 29 mai, il arrive épuisé avec ce qu'il reste de sa troupe. Des 26 000 hommes qui composaient la 12e DIM, il en reste 8 000. Et le spectacle qui s'offre à eux est terrible. Le capitaine Pomery, un membre de la 12e, raconte. De tous côtés, il y a des brasiers. Ce sont des maisons qui flambent ou des bateaux qui se consument. Une extraordinaire armada attend les détachements britanniques dans le port ou au large des plages, et l'on distingue nettement les files humaines qui pénètrent dans l'eau à la rencontre des chaloupes. Bien entendu, la Luftwaffe se rue à la curée, et elle pilonne sans arrêt les carrefours, les plages, les môles et les bateaux. Johnson pense que ses hommes et lui pourront être évacués vers l'Angleterre. Mais non. Il reçoit l'ordre de défendre Dunkerque et l'embarquement des troupes britanniques. Mes hommes sont exténués avant Johnson et nos unités sont sous-équipées. Les Anglais nous ont obligés à abandonner nos canons et toutes les armes lourdes dans les marines de Moire, à quelques kilomètres d'ici. Les officiers se sont en effet laissés convaincre d'abandonner leur armement lourd, persuadés d'embarquer vers l'Angleterre dès qu'ils seront arrivés sur la côte. Oui, mais les accrochages entre Français et Anglais sont fréquents. Ceux-ci refusent parfois de laisser passer les soldats arrivant de l'île et remontant vers Dunkerque. Comme en témoigne ici le soldat Langlart, interrogé par France 3 en mai 2020.
Une sentinelle anglaise gardait un pont au-dessus d'un canal et voulait nous empêcher de passer. Ce que nous n'avons pu faire que grâce à un général dont j'oubliais le nom, qui est arrivé dans une 402... et qui en est descendu, je l'en ai informé, des difficultés que nous avions de passer. Alors ce général m'a dit « suivez-moi », il est remonté dans sa voiture. Il était suivi d'un char auquel il a donné l'ordre de pointer l'arme sur la sentinelle anglaise. C'est grâce à ça que nous avons pu passer le canal.
Les supérieurs de Johnson sont conscients de l'immense effort demandé aux hommes. Mais aucune troupe fraîche n'est disponible. La mission qu'il leur a confiée est simple, enfin si l'on peut dire. Résister le temps nécessaire avant de permettre les embarquements britanniques, puis français, et leur tour viendra ensuite. Johnson pense-t-il que c'est une opération suicide? Peut-être, sans doute, mais c'est un militaire, il obéit aux ordres. Les 8000 hommes de la 12e DMI et les autres unités françaises présentes sur place, 5 divisions, représentent tout au plus 30 000 hommes. Ils disposent de 39 chars. Mais en face, les forces terrestres allemandes, elles, alignent 160 000 hommes et une centaine de chars, sans compter les bombardements aériens. Johnson établit son quartier général au fort des Dunes, à Lefrancouc, quelques kilomètres au nord-est de Dunkerque. Son armée s'installe le long de cette immense plage de sable qui court de Ballon-les-Bains jusqu'à la frontière belge. Car il faut défendre Dunkerque, il faut défendre à tout prix le rembarquement des Anglais, décidé unilatéralement par Churchill. Mais la quasi-totalité du corps expéditionnaire britannique est prise dans la nasse. Si ces soldats sont faits prisonniers par les Allemands, c'en est fini de l'armée de Sa Majesté et c'en est fini de la guerre. Le Premier ministre britannique avait envisagé dès le 19 mai de rapatrier son armée par les trois ports du nord de la France. Boulogne, Calais, Dunkerque. Mais quelques jours plus tard, Boulogne et Calais sont tombés sous les coups allemands. Restait donc Dunkerque. C'est de là que les troupes britanniques embarqueront. Le 26 mai à 18h57, ordre est donné de commencer leur évacuation. Alors les troupes affluent en masse vers le port, souvent dans le désordre le plus complet. Et l'embarquement commence. C'est là que nous croisons Hilaire André Wadou, un jeune marin de 23 ans. Il est alors tout jeune marié. Il a épousé Denise, une fille de Ballon-les-Bains, le 10 février, et il sert sur le torpilleur Le Foudroyant, l'un des 700 navires mis à contribution pour ce rembarquement. Il raconte, en février 2000, au micro de France 3.
Il y avait des Anglais, naturellement, les Français, il y avait des Belges, il y avait même des Polonais, puisque nous en avons embarqué. Et on peut dire que tout ça, ça refluait vers la plage pour essayer d'embarquer. On pouvait en embarquer environ entre 750 et 800, voyez-vous. Et aussitôt que nous avions embarqué ça, ben, il fallait filer le plus vite possible sur l'Angleterre.
L'évacuation de centaines de milliers d'hommes durera jusqu'au 4 juin. C'est la plus grande opération de sauvetage jamais mise en place. Nom de code, Dynamo.
War is coming, we're stuck here. Here with a minute maid, There's hearts once open and now closing down. They wanna get even. One the joker, one the threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me. No call for an Owen can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear. It's not enough to die. No. And we're stuck here, here where the minute pains, where the literature's a bigger picture, says we belong. All together, that's every strongest body of mine. This humanity is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. It's not enough to die.
Sensible, Fabrice Drouel.
L'opération Dynamo commence donc le 26 mai au soir, de façon un peu désordonnée. Maurice Finn, médecin britannique de la Royal Navy, y participe sur un destroyer.
Well, I was on the destroyer Ivanhoe.
J'étais sur un destroyer lors de l'évacuation de Dunkerque en 1940. On est arrivé le 27 mai directement sur Dunkerque. Quand on est arrivé, l'opération n'était pas très bien organisée. Nous avons commencé l'évacuation des soldats avec d'autres bateaux qui étaient déjà sur place. On récupérait les soldats avec deux bateaux pas très efficaces. Sur les plages de Dunkerque, la situation était catastrophique. Il y avait beaucoup de fumée et énormément de bruit. C'était comme la scène d'un film d'horreur et les Allemands n'étaient plus très loin.
Tandis que quelques unités, dont la 12e DIM, font ce qu'elles peuvent pour contenir la progression de la Wehrmacht, des centaines de milliers de Tommies, le nom donné aux soldats britanniques, se pressent à Dunkerque. Mais aussi le long des plages sans fin, qui rejoignent la Belgique toute proche, Malo les Bas, les Frinkoek, Zuidkot, Bredun. Et c'est là que nous retrouvons le sergent Julien Maya, le héros du roman de Robert Merle. En 1940, l'écrivain était un jeune officier de liaison basé à Zuidkot. Et c'est là, sur cette plage, qu'arrive Maya, qui prendra à l'écran les traits de Jean-Paul Belmondo.
Il s'était attendu à voir un petit port, des quais, ou du moins une jetée qui pourrait servir d'embarcadère. De grands navires accostés, les hommes y grimpant par des passerelles. Il vit une immense plage s'étendant à droite et à gauche à perte de vue. Les transports étaient des cargos incroyablement petits et vétustes. L'un d'eux portait même sur son flanc gauche un système antique de roues à palettes. Sur la plage, des Tommies attendaient, debout, en longue file parallèle. Plus loin, sur la gauche, hors du champ d'embarquement, des Français étaient massés en groupe compact. Anglais à droite, Français à gauche.
Anglais à droite, Français à gauche.
Churchill avait annoncé que l'évacuation se ferait bras-dessus avec les Français. Mais sur le terrain, c'est plutôt « Messieurs les Anglais, je vous en prie, passez les premiers. » Car il y a trop d'hommes, mais pas assez de bateaux. Alors des bagarres éclatent. Des soldats français qui tentent de prendre place subrepticement parmi les Tommies se font éjecter sans ménagement. L'embarquement se fait soit dans le port de Dunkerque, sur le sol encore debout, soit sur l'estacade, une longue jetée en bois à l'est du port, le long de laquelle viennent accoster les navires. Ça peut être sur les plages également, où des embarcations légères, maniées à la rame, chargent les hommes par petits groupes pour les mener à des navires à l'ancre un peu plus loin. Et tout cela se déroule dans le fracas des bombes, sous le feu des Stuka allemands qui plongent en piqué, arrosant généreusement la plage et tout ce qui flotte. Les Spitfire anglais, moins nombreux, mais pas moins féroces, leur donnent parfois la chasse. C'était kafkaïen, se souviendra Robert Merle. Il y avait quelque chose d'absurde, parce qu'en même temps, il faisait très beau, oui, un temps absolument magnifique. Les gars étaient couchés dans les dunes, ils étaient torse nus, et ils regardaient les combats aériens, et parfois ils criaient « Hurrah, bravo !» et ils applaudissaient, comme au spectacle. Avant de monter à bord, les soldats démontent parfois les pneus des véhicules abandonnés pour récupérer les chambres à air et en faire des bouts de sauvetage. Parce qu'une fois en mer, la partie n'est pas gagnée, non. L'artillerie allemande, les mines magnétiques et la Luftwaffe continuent de faire des ravages. Le foudroyant, sur lequel nous retrouvons notre jeune marin, il est André Wadou, le jeune marié, faisant la navette entre Douvres et Dunkerque en sait quelque chose. Le 1er juin, alors que le torpilleur entame sa quatrième traversée vers les côtes anglaises, il est sévèrement attaqué peu après avoir quitté le port.
Bon, on a eu à peu près 25, 30, 35 avions. On n'a pas le temps de les compter, hein. Bon, qui nous ont piqués de tous les côtés. Alors, le bateau s'est coupé en deux, s'est retourné immédiatement. Nous avons mis environ une minute pour couler et se retourner. Donc là, il a fallu faire vite. On s'est jeté à l'eau comme on a pu, à moitié déshabillé quand on pouvait.
Il est André Wadou et chanceux. Il s'en sort. Un navire proche le repêche. Mais voilà que celui-ci est à son tour attaqué. Et notre marin se retrouve à nouveau à la flotte, à nouveau sain et sauf. Il cherche alors à regagner la côte à la nage. Les courants le laissent à Zuidkot. Sur la plage, il contourne l'épave du Crested Eagle, un vapeur à roue à aube, celui-là même qu'aperçoit le sergent Maya depuis la plage, coulé par l'aviation allemande deux jours plus tôt, entraînant la mort de 300 personnes. Cette épave, d'ailleurs, on peut toujours la voir, aujourd'hui, oui, à marée basse. Mais en ce début de juin 40, le spectacle qu'elle offre est horrible. Des cadavres flottent au milieu du métal tordu, d'autres jonchent la plage. Juste derrière la ligne des dunes se trouve l'imposant sanatorium en briques rouges de Zuidkot, transformé depuis la mi-mai en infirmerie principale de la marine. C'est là qu'officie depuis quelques jours le médecin-major Jacques Morval. Le 27 mai, le jour où l'enfer s'est déchaîné sur Dunkerque, il a dû quitter la caserne où il opérait dans le centre de la ville. Elle était en flammes. Le voilà donc au Sana. C'était une énorme chose que ce sanatorium bâti en lisière des dunes, écrira-t-il dernièrement à ces événements qu'il a vécu aux premières loges. Trois équipes chirurgicales relevaient toutes les 4 ou 6 heures, opéraient jour et nuit dans 3 salles d'opération différentes, sans parvenir, malgré ce rythme, à vider la salle de triage où les blessés s'accumulaient plus vite qu'on ne pouvait les soigner. Pendant ce temps, dans le port et sur les plages, le rembarquement se poursuit dans le bruit des explosions et la fureur de l'aviation allemande. Le film Dunkerque de Christopher Nolan, tourné sur les lieux mêmes, montre bien ces longs files de soldats qui attendent et dont on pense qu'ils ne pourront jamais tous embarquer.
Le navire va s'en aller!
Allez, on descend!
Il faut qu'ils envoient d'autres vaisseaux. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain.
Ils ont réquisitionné les bateaux civils.
Les bateaux civils? Il nous faut des destroyers.
Mais les destroyers ne sont pas suffisamment nombreux pour embarquer ces dizaines de milliers d'hommes, alors que le temps presse, parce que les Allemands approchent. Et c'est une armada de bateaux civils, les Little Ships, qui répondent en masse à l'appel des autorités pour prendre la mer et exfiltrer les soldats du piège mortel de Dunkerque. C'est un peu comme les taxis de la Marne, 20 ans avant. En tout cas, ce fut tout à la fois dans un grand élan patriotique et dans un certain désordre. Robert Harling, capitaine d'un petit navire qui s'est porté volontaire, relate ainsi son départ de Londres. Il est cité par Dominique Lormier dans l'ouvrage « La bataille de Dunkerque ».
Il y avait de tout sur la Tamise. Mariniers, dockers, volontaires comme moi, personnel des phares et balises, il y avait des dizaines d'embarcations de sauvetage aussi disparates qu'on puisse l'imaginer. Avec 11 autres embarcations, je quittais la Tamise à la remorque du Sunfort en un étrange cortège. À l'approche des côtes françaises, une imperceptible tension s'empara des équipages de fortune. Personne ne parlait plus. Chacun avait le regard fixé vers l'avant comme un veilleur guettant un récif lorsqu'un cri strident rappela tout le monde à la réalité. « Les voilà, les salauds !» 50 avions allemands, très haut dans le ciel sans nuages, lâchaient leurs bombes dont chacun pouvait observer la chute.
1er juin, face aux pertes de navires, plus de 200 coulés en une semaine, les Britanniques décident que les évacuations se feront désormais uniquement de nuit. Dans la ville, les pompiers luttent contre des dizaines et des dizaines d'incendies. Louis Aragon, déjà poète, mais alors surtout médecin auxiliaire dans une unité de blindés, traverse la ville pour embarquer. On rase les murs, on plonge dans ces rues en ruine derrière lesquelles les bateaux flambent, écrit-il. À 19h, il monte à bord du torpilleur La Flore. Dans son roman Les communistes, il décrira le soulagement des évacués. La senteur du soir et de la mer emmène les esprits à la dérive. On voit à peine s'éloigner Dunkerque et ses fumées. Dunkerque est déjà si loin d'eux. Deux jours plus tard, le 4 juin au matin, la bataille de Dunkerque se termine. À 3h45, le torpilleur britannique Shikari quitte le port avec 600 soldats français à bord. C'est le dernier. Cette nuit-là, 26 175 soldats français réussiront à embarquer. Jacques Mordal, médecin-major de la marine, avait embarqué quelques heures plus tôt, lui, sur le petit paquebot côtier Émile Deschamps, qui avait déjà fait deux fois le trajet vers l'Angleterre. Alors que le navire s'apprête à entrer dans l'estuaire de la Tamise et que tout le monde à bord se croit sauvé, une violente explosion secoue le paquebot. Il vient de heurter une mine magnétique et coule en quelques minutes. Et une demi-heure après le naufrage, Jacques Mordal est secouru. Il témoigne. Empoigné, hissé à bord du sloop, nous fûmes en un tour de main, déshabillés, frictionnés, roulés dans une couverture et abreuvés de tafia par les marins anglais. On aurait dit que ces braves gens n'avaient jamais rien fait d'autre de leur vie que repêcher les survivants des bateaux coulés par les mines magnétiques. L'Émilie Deschamps est le dernier navire coulé pendant l'opération Dynamo. Au total, 243 bateaux ont été envoyés par le fond pendant ces 9 jours, dont 123 navires français. Tous, cependant, n'ont pas la chance de quitter ce rivage ravagé. Sur ce qui reste du front, dans les dunes ou dans les villes, 66 000 soldats français sont encore là, encerclés. Parmi eux, un capitaine d'artillerie dont on ne connaît que les initiales, RMD. Le 3 juin, vers 17h, il reçoit l'ordre de se mettre en batterie sous le fort des dunes, de tirer jusqu'à 21h30, puis de détruire voitures et canons et de se diriger avec son unité jusqu'à la grande jetée est de Dunkerque en vue d'un embarquement. La suite, elle est racontée dans son carnet de route, publié en 1942 par le journal France, un quotidien de 4 pages imprimé à Londres.
4 juin, au petit jour, nous nous trouvons sur le grand môle de Dunkerque, où l'on n'avance plus que pas à pas, lorsque tout à coup l'arrêt se prolonge. Il fait maintenant grand jour. Nous ne voyons que des épaves et rien ne bouge sur la mer. C'est alors que, s'arrêtant tous les 50 mètres, un groupe d'officiers annonce aux dizaines de milliers d'hommes massés sur le môle qu'il n'y a plus aucun embarquement et que tout est fini. La masse humaine rassemblée sur la digue reçoit le coup comme assommé, sans un mot. Tous ressentent l'amertume d'être ceux qui ont couvert la retraite et l'embarquement des autres, et d'être aussi ceux qui ne s'embarqueront pas.
Ceux-là, justement, ceux qui restent coincés dans la nasse, ont le choix, si l'on peut dire, devenir prisonniers des Allemands, trouver des vêtements civils et se glisser entre les mailles du filet pour rejoindre un autre front, ou tenter la traversée vers le Royaume-Uni par leurs propres moyens. C'est la solution qu'a choisi le colonel Robert d'Alsace. Il raconte dans l'émission Les dossiers de l'écran en 70.
J'étais rodé sur le port. Je trouvais un canot de mer. J'ai j'ai mis un homme à côté, je lui ai dit, ce bateau est à moi. Je suis retourné à mes hommes, je leur ai dit, voilà, je vais tenter le coup. C'est un peu risqué, évidemment, assez loin. Deux sous-officiers et un brigadier de ma batterie sont venus, un officier d'une autre batterie, et puis j'ai racolé une demi-douzaine d'autres gars. Nous sommes partis à la rame, les hommes sous camp par groupe de deux, pendant 10 minutes, comme des sourds, croyez-moi, et nous sommes arrivés à la nuit, en vue des côtes anglaises.
Ainsi parle Robert d'Alsace, qui est français, c'est pas Robert d'Alsace. En tout cas, tous ceux qui partent laissent derrière eux une ville affreusement mutilée, que les fumées des brasiers, des dépôts d'essence incendiés ont plongé dans le deuil, en ruine, à feu et à sang. En 9 jours de combat autour de Dunkerque, 16 000 Français et 2 220 Britanniques sont morts pour permettre le succès de l'opération Dynamo. Car c'est un succès, malgré tout. D'ailleurs, on parle du miracle de Dunkerque. Oui, c'est un véritable miracle qui s'est produit pendant les 9 jours de l'opération Dynamo, qui a sauvé, rappelons-le, 350 000 hommes, dont 240 000 Britanniques, là où Londres pensait n'en sauver que 45 000. Le sens du devoir, le patriotisme, pourrait-on dire, l'acharnement dont plusieurs divisions de l'armée française ont fait preuve lors de ces journées terribles, tout cela a permis à l'Angleterre de continuer la guerre. La bataille de Dunkerque est une victoire pour la Grande-Bretagne et c'est un échec pour Hitler. Joe Nixon, soldat de l'unité d'élite Coldstream Corps, évacué parmi les premiers vers la Grande-Bretagne, l'a bien compris.
The memories of those French people who suffered so much will always be with me.
Je n'oublierai jamais ces Français qui ont tant souffert. Nous sommes retournés sur notre île grâce à ce qu'on appelle le miracle de
Dunkerque.
Eux, ils étaient abandonnés, leur pays occupé. Eux aussi, bien sûr, ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont leur tristesse et leur douleur, comme nous. Mais au moins, nous, nous étions libres. Eux, ils étaient en captivité.
Si le 4 juin, le sort en est jeté pour Dunkerque, la guerre continue. Alors, que sont-ils devenus, ceux qui nous ont raconté cette bataille pendant le récit à hauteur d'homme? Eh bien, il est André Wadou, le marin du Foudroyant, deux fois sauvé des eaux, a par la suite rejoint l'Afrique du Nord. Il a participé au débarquement de Provence en août 44. Il a fini sa vie à Dunkerque, aux côtés de Denise, après 70 ans de mariage. Louis Aragon arrive, lui, à Plymouth, sain et sauf sur le torpilleur La Flore, et repart immédiatement vers Brest, car, rappelons-le, la guerre continue, officiellement jusqu'au 22 juin, jour où l'armistice est signé. Aragon sera décoré de la Croix de Guerre pour être allé 19 fois chercher des blessés dans les lignes ennemies. Jacques Mordal, le médecin, rentrera en France et continuera sa carrière dans la marine. Dans la France occupée, il donnera aux alliés un renseignement utile avant de revenir à Dunkerque à la fin de la guerre, dans les rangs des fusiliers marins. Une fois à la retraite, il entamera une carrière d'écrivain consacrée essentiellement à la Deuxième Guerre mondiale. Maya, ce soldat issu de l'imagination de Robert Merle, eh bien pour lui, ça se termine mal. L'écrivain le fait périr dans une maison bombardée. Dans l'adaptation qu'il en a faite pour le cinéma, André Verneuil réserve le même sort au beau sergent, mais le fait périr au creux d'une dune en regardant le ciel, fauché par les tirs d'un Stuka. Mort également le général Janssen, touché dans un bombardement au fort des dunes avec plusieurs officiers de sa division. Peu après, le quotidien Le Temps rappellera, je cite, « le rôle héroïque rempli par Janssen et la 12e division d'infanterie qui désignait pour protéger en dernière arrière-garde la retraite de l'armée sur Dunkerque et se sachant sacrifié d'avance, a fait son devoir dans le plus pur esprit de patriotisme ardent et de stoïque abnégation. » Très british. Louise Flamin, elle, a quitté l'enfer de Dunkerque en mai 1940. Elle a passé le reste de la guerre en Bourgogne, puis elle est revenue dans sa ville, Dunkerque, martyrisée, mais qui se relèvera. Le Jean Barthes, au centre de la place qui porte son nom, est toujours debout. Parce que Dunkerque n'est pas morte, juste salement blessée. Dunkerque, dont la Croix d'Auvergne, hebdomadaire d'information catholique, parle ainsi avec des accents gauliens par anticipation le 9 juin 1940.
Dunkerque, avec ses chenaux étroits, faciles à embouteiller. Dunkerque, découverte de partout et de partout vulnérable. Dunkerque, écrasée de bombes par toute l'aviation Bosch, mais Dunkerque, animée d'une volonté froide, inébranlable, entêtée.
Davenports and kettle drums, swallowtail coats, tablecloths, and patent leather shoes, bathing suits and bowling balls, and clarinets and rings. Radio really needs is a fuse. A tinker, a tailor, a soldier's things, his rifle, his boots full of rocks. Oh, and this one. This one is for me, and everything's a dollar in this box. Cufflinks and hubcaps, and trophies and paperbacks. Good transportation, but the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves, this jackknife is rusted. You can pound that dent out on the hood. A tinker, soldier's things, his rifle, his boots full of rocks. Oh, and this one is for bravery. Oh, and this one is for me, and everything's a dollar in this box.
Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui la bataille de Dunkerque dans le cadre de notre série cette semaine sur les grandes dates qui ont marqué l'histoire de notre pays, dont nous allons parler avec Dominique Lormier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, membre de l'Institut Jean Moulin. Vous avez énormément travaillé et écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage sur la bataille de Dunkerque, celle dont nous venons de parler, qui était publié l'ouvrage en 2011, dont l'édition de poche vient de sortir chez Talendier. Vous êtes en duplex depuis Bordeaux. Une petite précision, notre général Janssen, dont j'ai beaucoup parlé, à l'allure d'un Britannique, les façons, les manières d'un Britannique, mais il est français, hein, on est bien d'accord.
Absolument, bien. Il était français.
Alors, en exergue de ce livre sur la bataille de Dunkerque, vous citez une phrase du prince Charles d'Angleterre qui dit « Sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu le 6 juin 1944 ». Cela signifie que ce moment de la guerre, hein, qui a souvent été qualifié de façon très négative, de déroute, catastrophe, débandade, j'en passe et des meilleurs, n'a pas été si négatif. Au contraire, on peut dérouler le fil, hein, sur cette bataille. Pas de débarquement peut-être, et in fine, pas de victoire des Alliés.
Absolument, ça a joué un rôle essentiel dans la poursuite de la guerre, puisque si l'armée britannique professionnelle avait été capturée à Dunkerque, il n'y avait pratiquement plus de troupes pour défendre le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, Churchill a rappelé dans ses mémoires de guerre que ça avait joué un rôle essentiel dans la poursuite de la guerre. Le général allemand Guderian a estimé que ça avait été une faute capitale d'Hitler de ne pas avoir attaqué massivement pour anéantir les troupes britanniques à Dunkerque, et que ça avait eu des répercussions énormes par la suite, puisque ça a condamné l'Allemagne à la guerre. guerre sur deux fronts, c'est-à-dire face aux alliés de l'Ouest et face à l'Union soviétique. Si les alliés, les Britanniques avaient capitulé dès 1940, les Allemands auraient pu concentrer toutes leurs troupes contre l'Union soviétique.
Et alors pourquoi, c'est mystérieux, pourquoi Hitler a-t-il, si j'ose dire, lâché l'affaire?
Alors, il a lâché l'affaire justement parce que entre le 10 mai et le 23 mai, il perd entre 30 et 50% de ses chars et il doit absolument les préserver pour la seconde phase de la bataille de France où il doit affronter encore à peu près 60% de l'armée française. Donc, et d'autre part, il va commettre l'erreur d'engager ces chars non pas d'une manière massive contre la poche de Dunkerque mais contre les poches de résistance française qui ont lieu notamment également à Lille mais également aussi à Calais et à Boulogne, si bien que au lieu de concentrer l'essentiel de ses troupes pour anéantir les troupes britanniques, il va les disperser pour essayer d'anéantir les résistances des troupes françaises dans ses poches.
Alors, il y a quelques lieux communs qui tournent autour de cette affaire, des présupposés comme beaucoup de faits historiques, hein. Et notamment le fait que les Anglais auraient lâché les Français, que c'était vraiment pas loyal. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour rétablir la vérité? Français, Anglais à Dunkerque. Ah.
Ben, je dirais que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une attitude un peu égoïste des Britanniques, mais néanmoins il convient de rappeler qu'une bonne partie des troupes françaises ont pu être évacuées grâce au navire britannique, donc ils ont joué un rôle. Par contre, la défense de la poche de Dunkerque a été en grande partie assurée pratiquement uniquement par les troupes françaises. Donc le prince de Kent que j'avais côtoyé en écrivant mon livre sur la bataille de Dunkerque avait dit que cette bataille a été un succès grâce à l'effort de tous, donc des Français qui ont résisté héroïquement dans la poche et des Britanniques avec leurs navires qui ont permis de rembarquer les troupes alliées. Donc il y a eu, je dirais, une conjonction d'efforts des deux.
Oui. Il y a aussi presque une culture, enfin, je ne sais pas si on peut dire culture du conflit entre les Français et les Anglais. Ont combattu ensemble, côte à côte. Ils avaient déjà fait la même chose pendant la Première Guerre mondiale. Donc on ne pouvait pas imaginer que les uns trahissent les autres.
Absolument, ben les Anglais avaient joué un rôle essentiel dans la bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale, hein. Ça avait marqué les esprits, il y a eu de nombreux tués, donc il y avait véritablement une entente cordiale qui s'est installée. Néanmoins, la bataille de Dunkerque a quand même marqué les esprits parce que certains Français ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par les Britanniques, et c'est d'ailleurs été utilisé ensuite par le régime de Vichy pour enfermer la France dans une certaine anglophobie qui a été d'ailleurs mis en avant par la propagande du régime de Vichy voulant nous faire croire que les Anglais nous avaient totalement abandonnés, ce qui n'est pas entièrement exact.
Alors, il y a les Belges aussi, hein, ils sont des alliés, les Belges. Mais le 28 mai, leur roi baisse les armes et se rend. Cette capitulation a été sévèrement commentée en France, hein. Je crois qu'on a parlé même de la félonie du roi des Belges. On a du mal à croire qu'il y avait des bonnes raisons de l'agonir ainsi, franchement.
Absolument. Bah, c'est Paul Reynaud qui a mis ça en avant pour justement faire oublier les erreurs du haut commandement français en voulant accuser les Belges comme bouc émissaire. Alors que l'armée belge, en règle générale, s'est relativement bien battue, surtout les unités wallonnes. Par contre, vous avez certaines unités flamandes qui étaient, contaminées par le national-socialisme. Certaines ont lâché pied parce qu'elles étaient plutôt pro-allemandes. Mais en règle générale, on peut dire que l'armée belge, dans son ensemble, s'est vaillamment battue.
Dominique Lormier, ne quittez pas surtout, on se retrouve dans 3 minutes à peu près après avoir écouté Hervé, permis de construire.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux. Salutaire, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir. Y'a rien de personnel, j'fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains, mais moi j'fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. J'lançais des adieux salutaires. Je laissais faire le temps.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Dominique Lormier, parlons évidemment de nos amis indéfectibles anglais qui ont été à nos côtés pendant les deux grands conflits, toujours dans cette immense fidélité. Et puis je pense au génie des Anglais, je pense à l'opération Fortitude, je pense au char en plastique pour leurrer avant le débarquement. Et on en arrive dans le même ordre d'idées à ces fascinants Little Ships. On peut revenir sur cette histoire-là, racontez-nous.
Effectivement, ce sont des navires civils qui se sont rassemblés et qui ont participé massivement au sauvetage des troupes alliées. On le voit très bien d'ailleurs dans le film de Christopher Nolan, même s'il a tendance à oublier un peu le rôle des troupes françaises qui a été essentiel. Mais néanmoins, il met très bien en avant ce rôle héroïque qui était celui de ces marins, pour la plupart des civils, c'était pas des militaires, sur ces petits navires donc qui ont traversé la Manche pour venir sauver les soldats britanniques mais également français. Et ça a été véritablement, je dirais, l'accomplissement d'un très grand courage mené par ces petits navires qui n'avaient aucune protection contre les attaques aériennes, qui pouvaient être également attaqués par les sous-marins allemands ou par les navires allemands. Donc, véritablement, c'était des opérations extrêmement périlleuses et qui ont demandé énormément de courage.
C'était des civils, c'est des civils qui avaient
absolument,
des bateaux.
Absolument, oui, c'était pratiquement exclusivement que des civils. Donc, c'était des marins qui ont quitté la Tamise, donc qui ont rejoint ensuite la Manche et puis qui véritablement ont mené des opérations d'embarcation absolument remarquables et qui ont demandé extrêmement de dévouement et de courage.
Ça rappelle un peu les taxis de la Marne, je trouve. Les comparaisons sont toujours hasardeuses dans l'histoire, mais il y a un côté comme ça, quand même, héroïque, improvisé et en même temps génial.
Il y a toujours un côté, je dirais, imprévu dans la guerre. C'est-à-dire, on avait prévu que les Allemands attaqueraient par le nord de la Belgique, sont passés par les Ardennes. Alors qu'en plus, nos autres hauts commandements avaient été prévenus une semaine à l'avance que l'attaque aurait lieu dans les Ardennes, mais le général Gamelin n'a pas voulu le croire. D'où les effets catastrophiques. Donc, véritablement, je dirais que les événements militaires sont toujours marqués par des événements imprévus, souvent dramatiques, mais quelquefois aussi, il y a parfois un côté cocasse, comme on le voit très bien dans le film également de Romer Merle, Weekend de coq.
Oui, comment vous le trouvez ce film d'ailleurs? C'est intéressant de voir toujours la représentation de l'histoire et des conflits à travers le cinéma, qui ne se gêne pas pour le faire, il a bien raison. Qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue du rendu historique de Weekend at Zutkot?
Ça montre très bien, je dirais, les mentalités des soldats français durant la campagne de 40, à savoir ceux qui veulent se battre, et on le voit très bien à travers certains acteurs. Il y a notamment un acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui abat un Stuka allemand avec son fusil mitrailleur. Et puis il y a également Jean-Paul Belmondo, qui est très empreint d'humanité. D'ailleurs, je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles, un des plus empreints, je dirais, de profondeur qu'il a pu faire dans le cinéma, à travers ce sergent Maya, qui véritablement montre, je dirais, le côté panique, mais également aussi humaniste, qui a été celui de ces soldats enfermés dans la poche de Dunkerque.
Alors, c'est pas une colle, mais si vous savez, vous nous le dites. On sait, je reviens sur le Little Ship, juste pour le chiffre, on sait combien il y a eu de ce petit bateau, ou un chiffre approximatif?
Oh, mais il y en a eu environ, je crois, une centaine, donc c'est quand même relativement considérable. Ils ont joué véritablement un rôle très important dans le sauvetage des soldats alliés.
Un mot des civils restés à Dunkerque quand même, parce que ville martyre, il y a eu beaucoup de villes, je pense à Caen notamment, une ville vraiment, vraiment, ou Havre, vraiment bombardée, mais Dunkerque également, c'était la martyre de civils, on est bien d'accord.
Absolument, ça a été très dur. D'ailleurs, Jacques Duquesne a raconté ses souvenirs. L'ancien journaliste de l'Express, qui avait travaillé à La Voix du Nord, a connu enfant le martyr de Dunkerque. Il était enfant, donc il était souvent dans les caves pour éviter les bombardements. Et je le montre très bien dans mon livre « Les vérités cachées de la défaite de 1940 ». Mais il convient également de souligner que cette bataille de Dunkerque est dans le prolongement du débarquement de Normandie. Parce que, comme je l'ai rappelé à travers la citation du prince Charles d'Angleterre, sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu le 6 juin 44. Et je le fais d'ailleurs en le prolongement d'un livre là que je viens de sortir aux éditions Ring. Comme des lions, ces Français qui ont vaincu Hitler en 1944-1945 et qui met justement en avant, je dirais, l'exploit du débarquement qui a été possible justement grâce au sacrifice héroïque des troupes françaises dans la poche de Dunkerque.
Bon, ben ça c'est une vérité historique, il était bon de rappeler, maintenant on sait, et c'est très bien. Vous avez écrit donc le livre dont vous venez de nous parler, vous avez écrit également les autres, les vérités cachées de la défaite de 40. Oh, il nous reste une minute et demie, s'il fallait retenir les principales vérités cachées, lesquelles retiendrez-vous?
Eh bien, je dirais que ça a été la résistance acharnée des troupes françaises qui ont permis aux Britanniques de poursuivre la guerre. Il faut savoir que la première bataille de chars, la Seconde Guerre mondiale, s'est déroulée à Anud-Jambloux en Belgique et que ça a été un succès tactique des troupes françaises puisque deux divisions blindées françaises ont stoppé tout un corps blindé allemand et que ça a été une des plus grandes batailles de chars d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale et elle est totalement méconnue. Vous avez eu également la bataille de Stone dans les Ardennes que les Allemands avaient surnommée le Verdun du 1940. Vous avez eu des troupes françaises trois fois moins nombreuses qui ont résisté pendant deux semaines à des troupes allemandes qui étaient beaucoup mieux équipées et qui ont entraîné justement le fait que les Allemands ont dit qu'ils avaient affronté les meilleures troupes françaises durant la bataille de Stone où les Allemands ont subi de très lourdes pertes. On oublie souvent de dire également que 50% des chars allemands ont été mis hors de combat en 45 jours de combat et également 50% de l'aviation anglaise, ce qui a eu des répercussions énormes lors de la bataille d'Angleterre puisque les Allemands n'avaient pas totalement rééquipé leurs effectifs. Ils étaient pas suffisamment en supériorité numérique pour battre la Grande-Bretagne. Et le général allemand Galland, qui a été un des as de la Luftwaffe allemande, a même reconnu que le premier round de la bataille d'Angleterre a été la bataille de France contre l'aviation française.
Bien, voilà un tableau très complet. Dominique Lormier, je vous remercie. Et je rappelle le titre de ce livre, Les vérités cachées de la défaite de 40. Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la bataille de Dunkerque, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Suite de notre semaine historique demain, bien sûr, avec les accords d'Évian, jeudi avec le 13 mai 1968 et vendredi avec l'abolition de la peine de mort en septembre 81. On enchaîne avec notre ami Antoine Decaune, bonjour.
Bonjour Fabrice. Fabrice, aujourd'hui on va parler de musique, de bande dessinée. Si je vous dis Strat, pensez à quoi ?
Faut que je pense d'abord.
Oui, pensez évidemment à la Stratocaster, les gens de la guitare. Mais c'est pas tout le sujet du jour.
Moi j'aime bien Rinbacker, c'est pas bon.
Oui, non, c'est un autre son.
Et la basse Hoffman quand même. Non, c'est pas Hoffman.
Hoffner de McCartney, évidemment. Bon, mais cessons là cette conversation, car nous prenons beaucoup de temps d'antenne. Non, on va parler des Strats de Pénélope Bagieux. C'est son nouvel album. Et aussi, on aura Métronomie en live dans le studio.
Voilà.
Pas mal.
Très bien, formidable. Ça valait le coup. À tout de suite.
À tout de suite.